L'expérience commence. On pense qu'on sait. Les plus jeunes disent « on l'a fait en histoire ». Ce sont pourtant les dernières années où l'on peut encore écouter les survivants de la Shoah, face à soi, de vive voix. Béatrice Leca a voulu interroger cette expérience de la parole, l'impact qu'elle a dans nos vies quand on y a été confronté. Pourquoi faut-il parler encore ? Face à des adolescents qui ont aujourd'hui 12 ou 13 ans, quand la distance des années s'agrandit, comment parler? Est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il y a un âge minimum pour pouvoir entendre? Comment faire pour que la voix ne se brise pas, pour pouvoir tenir, et pourtant ne rien oublier de ce qu'on a à dire? Certains se sont tus pendant des années. La langue est au cœur de l'expérience de ce soir. Ce n'est pas un chapitre dans un livre d'histoire, ce sont des voix, et il y a toujours un avant et un après cette parole-là. Nouvelle écoute de ce documentaire, réalisé au printemps par Béatrice Leca et Yaël Mandelbaum, « Parler encore, collégiens et survivants face à la Shoah ».
Avant de mourir assassiné en 1943 à Majdanek, l'historien juif polonais Ignacy Schipper écrit « Mais si c'est nous qui écrivons l'histoire de cette période de larmes et de sang, et je suis persuadée que nous le ferons, qui nous croira ? Personne ne voudra nous croire, parce que le désastre est le désastre du monde civilisé dans sa totalité. Presque chaque semaine en France, des hommes et des femmes nés autour des années 30 vont témoigner auprès d'adolescents. Ils racontent, chacun à leur façon, chacun leur récit. Ils racontent depuis 20 ou 30 ans maintenant. Un grand silence les entoure. Ils emmènent avec eux ces enfants qui ne savent rien ou presque, parce qu'on ne peut rien savoir. C'est un voyage difficile. On est loin des films, des romans. Il n'y a presque rien. Une voix et un visage éprouvés. En face, la petite foule d'enfants est saisie. Ce que cette présence nous dit est simple. Écoutez-moi et croyez l'incroyable. Et peut-être aussi, vous m'avez vu. Vous raconterez à votre tour. Et vous aussi, parce que vous m'avez écouté, on vous écoutera. Ainsi, les morts ne seront pas ensevelis dans l'oubli. Ainsi, pour vous aussi, la mémoire de cette histoire sera sacrée. Et peut-être ainsi aurons-nous conjuré le sort. Il y a dans leur récit un effroi et une promesse, scellés par leur présence parmi nous. Nous révélons l'horreur, encore et encore, pour que plus jamais cette histoire n'advienne. Comme les contes très anciens, leur parole est un avertissement. Nous avons rencontré des élèves de 3e. Nous avons enregistré Victor Peraya, interné à Drancy à 9 ans, déporté au camp de Bergen-Belsen 2 ans plus tard. Esther Senot, déportée à Auschwitz à 15 ans. Franja Haverland, déportée à Plaschow à 13 ans, puis à Auschwitz.
Alors, je suis d'origine polonaise. Je vis dans une famille heureuse.
Franja Haverland.
Ça marche ?
On aura du temps pour les questions.
D'accord.
Ne vous inquiétez pas.
Alors, j'ai 13 ans. En 1939, 1er septembre, éclate la guerre. La bombe tombe sur la gare de ma ville. Et pendant 7 jours et 7 nuits, bombardement. Après 7 jours et 7 nuits, silence. On sort et on compte nos morts.
Vous aviez entendu parler de la Shoah ?
On l'a fait en histoire.
Cette année ?
Ah oui, cette année.
D'accord. Mais avant cette année, et par d'autres biais que l'école, vous saviez ?
Oui, moi par mes sœurs, elles m'avaient expliqué un peu ce qui s'était passé.
Enfin, moi, je savais juste pour les nazis, mais après, pas plus.
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu savais des nazis ?
Enfin, que Hitler, il était méchant, enfin, il avait tué beaucoup de monde. Après, enfin, les nazis, ils aimaient pas certains. Enfin, je savais pas si c'était spécialement des juifs, mais après, voilà.
Est-ce que vous trouvez que vous êtes trop jeune pour être mis en contact avec cette histoire ?
Non.
Non ?
C'est l'âge, on va dire, idéal pour prendre conscience, enfin, des tournures que ça pourrait prendre si ça revenait. Parce que, genre, notre prof, eh ben, hier, elle nous avait dit qu'il y a eu des actes antisémites il y a quelques jours à Paris. Et, quand elle nous a montré ça, ben, je me suis dit que ça pouvait revenir, par exemple, petit à petit.
Quand vous avez commencé à parler devant des élèves, est-ce que vous vous êtes posé la question de comment raconter ?
Bien sûr. J'ai réfléchi surtout comment je veux dire pour pouvoir continuer à parler. L'émotion était trop grande parce que moi, quand je parle, je vis. Quelquefois, je me pince. Je me dis, c'est fini, Fania, tout ça. Et en même temps, il faut faire tellement attention pour pas avoir cette voix cassée, pour pouvoir avancer. Puisque vous avez là les élèves, quelquefois j'avais 600 élèves devant moi. Il ne s'agit pas d'avoir des larmes et la voix cassée, il faut avancer. Ils sont là et... Alors, nous arrivons en 1942. En 1942, Hitler réunit son équipe dans un village Wannsee, c'est à 6 km de Berlin, et là, il décide la solution finale. Et de cela était chargé un certain Adolf Eichmann. Donc, liquidation du quartier. On nomme ça le ghetto. Alors, on nous ordonne de se réunir sur la place dans ma ville. C'était la place des autobus. Et obligé de se mettre à genoux, les mains derrière la nuque, et y procéder par la sélection. Arrive mon tour, on se lève, mais il ne nous parle pas, il crie, il hurle. Et ils ont des chiens, des bergers allemands, qui sont dressés pour sauter sur nous, pour montrer des crocs, de façon à ce qu'on a peur, parce que quand on a peur, on ne peut pas réagir, C'est quelque chose, quand on n'a pas subi ça, on ne peut pas s'imaginer, on est, comment dire, on est comme asphyxié, on ne réfléchit plus. Alors, hors de se mettre debout, et d'un seul coup, ils nous disent à nouveau de se mettre à genoux. Et il se passe quelque chose, on les voit excités, rouges, et on ne comprend pas ce qui se passe. Et d'un seul coup, je vois un groupe de personnes arrive et selon mon expérience, j'ai tout de suite compris que c'était un groupe qui était trouvé dans une cachette. Alors, il y avait des hommes, il y avait des femmes, des enfants, et il y avait une femme qui portait un nouveau-né dans ses bras. Alors, tout ce groupe devait rejoindre le groupe déjà sélectionné. Et cette femme, on lui a donné l'ordre de se mettre à genoux à deux personnes de moi. Et d'un seul coup, debout, et c'est des hurlements. Il ne nous parlait pas calmement, c'est des hurlements. Et il s'adresse en premier à cette femme et il montre de rejoindre le groupe déjà sélectionné. Alors, elle était pieds nus. Elle fait quelques pas. Elle reçoit un coup de matraque sur la tête. Les chiens sautent sur elle. Elle tombe avec le bébé. Elle se relève. Elle veut ramasser le bébé. Il la laisse pas. Il la frappe. Les chiens sautent sur elle. Et on l'oblige de partir. Pardonnez-moi, ça va être très difficile. Mais je ne peux pas faire autrement que raconter ça. Ils se mettent à jouer au football avec le nouveau-né. Il y a un élève, il n'y a pas longtemps, il m'a demandé, « Madame, c'est quoi un nazi ?» Je lui avais raconté ça, je lui ai dit, « Voilà, voilà, c'est ça un nazi. » Alors, vient mon tour, je suis sélectionnée dans le même groupe que cette femme. Et auparavant, j'ai remarqué que mon frère est né. Alors, mon frère cadet a déjà disparu, ma mère aussi. Mon frère aîné était sélectionné dans un groupe où, avec mon expérience déjà, ils avaient à peu près bonne mine. Apte au travail, voilà. Et je me suis dit, lui, il va encore vivre. Et lorsque, dans ce groupe où j'étais sélectionnée, on nous ordonne de nous mettre par 5, dans ma tête, je me suis dit, je me mettrai au bord de ce rang lorsqu'on passera devant le groupe où était mon frère, pour rejoindre les camions bâchés, non pas avec les paroles, parce que nous n'avions pas le droit de parler, mais avec le regard, je vais lui dire adieu. Et au moment où je passe, je ne le vois pas. Je sens quelqu'un qui me tire par la manche. Je raconte ça parce que ma survie, je la dois aussi à mon frère. Parce qu'il m'a attiré dans ce groupe. Et lorsqu'ils ont terminé les sélections, on rejoint la gare de ma ville de Tarnów. Et là, il y a déjà un monde fou. On sépare des hommes et des femmes. Et on nous fait monter dans des wagons à bestiaux, des wagons plombés, et on part vers une destination inconnue. Alors, le trajet était de 70 km, parce que ce trajet, je l'ai fait avec ma mère avant la guerre. de Tarnów à Cracovie. Et là, ça durait 3 jours et 3 nuits, sans boire, sans manger, sans possibilité d'aller aux toilettes. Et le convoi ne partait pas d'un trait, mais il s'arrêtait et repartait, il s'arrêtait et repartait. Et pendant ce temps-là, on tombait les unes sur les autres, on se blessait. Pas possible d'aller aux toilettes, donc on glissait sur les excréments, les urines, des gens qui agonisaient, des gens qui mouraient. Et c'était voulu, c'était une forme d'extermination. Ça veut dire que nous n'arrivions jamais à la destination le même nombre de vivants qu'au départ. Des convois comme ça, j'en avais fait 4, et le premier était le plus court, parce que j'étais dans 4 camps de concentration d'extermination. Alors le premier était Plachov, le deuxième était Auschwitz-Birkenau, le troisième était Flossenbürg, et le quatrième était Theresienstadt. Alors, quand je résume ça, on ne peut pas s'imaginer ce que ça voulait dire, ces parcours. Chaque parcours était le plus long, et toujours dans les mêmes conditions. Alors, comment je suis là? Je ne saurais pas vous dire. Voilà, est-ce que je peux parler encore longtemps? Je continue.
Vous vous souvenez la première fois que vous avez parlé devant des adolescents, devant une classe?
Je m'en souviens parce que avant de me décider à parler devant une classe,
Victor Perraya,
j'ai demandé à une personne qui, comme moi, avait été déportée, qui témoignait, elle déjà, de me permettre d'assister à son témoignage pour voir un peu comment les choses se déroulaient. Et donc... Après cette séance, c'est là où je me suis lancé. Pendant que je parlais, la première fois, j'ai eu des enfants qui pleuraient. Et peut-être que j'employais à l'époque des mots tout neufs et qui touchaient plus profondément. Mais le fait de voir des adolescentes qui pleuraient, ça m'a fait mal au cœur. Et je me suis posé des questions de savoir si c'était constructif ou si au contraire on n'apportait pas quelque chose de nocif à ces adolescents.
C'est pas vous qui l'apportez?
Non, bien sûr, c'est mon récit. Mais il n'empêche que je suis pas obligé d'en parler.
Alors c'est un peu ça la question, jusqu'où on va, jusqu'où c'est possible d'aller dans ce qu'on dit?
Déjà il faut prendre la décision de ne pas témoigner devant des trop jeunes. Il faut pas les choquer, il faut pas leur ôter tout l'espoir qu'ils ont en avenir meilleur. Donc moi, moins de 15 ans, je refuse de témoigner. Si on témoigne, il faut dire tout ce qu'il y a à dire. Même ce qui peut choquer, même ce qui peut faire pleurer.
Est-ce que vous avez connu personnellement Anne Frank?
Alors Anne Frank, lorsqu'elle était à Bergen-Belsen, c'était une parmi tant d'autres. C'était un numéro de matricule seulement. Alors, je l'ai certainement côtoyée sur la place d'appel, quand il y avait l'appel tous les jours, car elle était elle aussi sur cette place d'appel. Mais je n'ai pas mémoire de l'avoir côtoyée personnellement, directement, et d'autant plus qu'elle était hollandaise et qu'elle parlait le hollandais, et que moi je parle que le français.
Une seconde question.
Est-ce que vous avez encore votre numéro de portée?
Le tatouage ne se faisait qu'à Auschwitz-Birkenau. J'ai pas été à Auschwitz, donc j'avais un numéro de matricule, comme tout le monde dans les camps de concentration, mais il n'est pas tatoué sur mon bras.
Quand vous voyez des gens se faire brutaliser ou des cadavres par terre, qu'est-ce que vous ressentiez au fond de vous-même?
Les premiers cadavres que j'ai pu voir, ils m'ont impressionné. Mais après, ça fait partie du décor quotidien. D'autant plus qu'ils restaient en permanence par terre et qu'ils s'amoncelaient. Quand vous voyez à la télévision des machines qui poussent les cadavres pour les envoyer dans des fosses communes lorsque les camps ont été libérés, c'est Bergen-Belsen qu'on voit. Nous, il n'y avait pas de four crématoire, donc les morts, ils s'amoncelaient, ils ne savaient pas quoi en faire.
Parler à ces adolescents, il vous semble qu'il y a une grande distance entre eux et vous?
Certainement. Une très grande distance. Ce que j'ai vu dans mon enfance, c'est pas donné à tout le monde. Et heureusement. Mais c'est pas non plus très constructif. Au contraire. Vous savez, les anciens déportés qui... Nous qui sommes revenus, quelque chose de nous est resté là-bas, ancré dans le camp là. On n'est pas tout à fait normaux. On a en nous quelque chose qui nous rappelle ce que l'on a vécu, ce que l'on a vu, et qu'on n'aurait pas dû voir, qu'on n'aurait pas dû vivre. C'est tout à fait anormal d'avoir enduré et vécu ce que nous avons enduré. Alors, on fait avec, mais on n'est pas tout à fait normaux.
Noélie,
Noélie, faut se lancer. Hein. Toi, tu dirais un héros ou pas un héros?
Bah non, c'est quelqu'un de normal.
Quelqu'un de normal, oui.
Je sais pas.
Il a eu de la chance.
Oui, il a eu de la chance. C'est un héros et à la fois non, parce que, comme il le dit, il a eu de la chance, mais aussi après, il a réussi à supporter tout ce qui est arrivé. Il a le froid, toute la faim et tout. Il a réussi à survivre malgré tout ça. Du coup, oui, quand même.
Qu'est-ce que c'est finalement un héros pour vous? Alors, peut-être ça, on peut définir quand même. Alors, Jules, Anthony...
C'est quelqu'un qui sauve des vies. C'est une personne... qu'on a envie d'être.
Oui.
Voilà.
Nathan, oui.
Pour moi, un héros, c'est quelqu'un qui a été très important au cours de l'histoire, qui a fait des choses importantes pour l'humanité.
Par exemple,
tu dirais qui? Je sais pas.
Pour moi, c'est plus un survivant qu'un héros. Et c'est celui qui montre ce qui s'est passé. Donc, il donne du savoir aux gens. Donc, ça, c'est un petit peu un héros dans un sens, en fait. Parce qu'il transmet le savoir.
Alors, qu'est-ce qui est héroïque là-dedans?
Bah, c'est d'en parler. Parce que ça a dû lui faire mal, etc.
Moi, où je commençais dans le scolaire à témoigner, c'était... En 1993, lorsque le film La liste de Schindler est sorti. Et il y avait une polémique avec Lanzmann. Shoah est sorti en même temps que La liste de Schindler.
Avant. Shoah est sorti en 1985 et La liste de Schindler est sortie en 1993.
Oui, mais il y a eu quelque chose.
Oui, il y a eu une réaction très violente de Claude Lanzmann contre le film.
Voilà, j'ai l'article du journal Le Monde où on parle de moi parce que c'est moi qui a soutenu ce film.
Et pourquoi vous l'avez soutenu?
Bah parce que c'est très réel, ça, c'est très rapprochant. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai... Comment peut-on raconter que c'est romancé, que ce film, enfin, il a révélé au monde ce qui s'est passé dans ce camp de Plachov.
La position de Lanzmann, je crois que c'était aussi de dire on n'a pas le droit de faire une fiction à partir de ce qui s'est passé.
Alors la réponse de Spielberg était qu'il n'a pas fait une fiction, il l'a fait un film qui se rapproche à la réalité.
Vous, vous avez eu ce sentiment aussi, que c'était proche de la
réalité? Ah oui, mais moi, enfin, on parle de Plachov. C'est un camp où je suis restée, on n'a pas de date exacte, mais entre un an et demi, je suis restée. Je connais ce camp par cœur et puis ce film a révélé quelque chose au monde entier, pas qu'en France. Enfin, on parle. Jusqu'à là, il y avait un tel silence.
Ce film, il vous a permis de parler?
Ah oui. J'avais l'impression qu'on parle de moi, même si je n'étais pas sur la liste de Schindler. Mais on a parlé dans le camp de Schindler que ces gens-là sont protégés, que Schindler est bien. Il ne fallait surtout pas ébruiter trop, parce que ça pouvait lui nuire. Et puis je vais vous dire autre chose. Je connaissais les frères Rosner, qui étaient musiciens, tous les soirs, lorsque Schindler et Hermann Goethe s'enivraient, ils disaient que chaque soir, quand ils vont jouer chez Hermann Goethe et Schindler, ils ne sont pas sûrs de revenir vivants. Parce que ce monstre, Hermann Goethe, était capable de tout quand il était ivre. Mais Schindler a joué double rôle pour le Amadoué. Schindler allait en Hongrie, lui apportait des chemises en soie, et il lui faisait croire qu'il est d'accord avec lui, que les Juifs, il faut les exterminer. Donc vous pensez bien, quand ce film est sorti, mon Dieu, que j'étais soulagée. Enfin, on va me croire. Parce que là, il y a eu ça aussi, c'est que les gens ne croyaient pas. Voilà. Ouais.
Vous avez raconté, juste après la guerre, ce qui s'était passé à des gens qui ne vous ont pas cru?
Moi, non. J'avais pas à qui raconter. Vous savez, moi, j'étais la petite migrante. Je parlais pas bien français. Donc je me faisais toute petite. Mais j'ai rencontré des gens. Je me souviens, quand je commençais déjà à témoigner, une résistante, Gisèle Guimot, qui racontait lorsqu'elle est revenue et elle a voulu dire quelque chose à sa mère, tu sais, où j'étais, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands. Et sa mère lui a répondu, arrête de raconter des choses comme ça, je vais te faire enfermer, tu es folle, tu es folle.
Thank you.
Mais c'est-à-dire qu'on a commencé à m'écouter à partir de 85. Hein. Et encore, j'étais avant. Enfin, je l'ai fait avant tout le monde parce que dans tout le reste de la France, ils ont commencé qu'à témoigner qu'à partir de 90.
Esther Sénot.
Et puis j'avais envie de parler. Parce que vous voyez, moi, de notre transport, cette jeune femme que j'ai connue, Marie, à Drancy, on n'est revenu qu'à deux. Et elle, elle n'a jamais voulu parler.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Vous voyez, mon frère qui a eu quand même aussi, lui, un trajet assez difficile, il n'a jamais voulu en parler.
Et est-ce que vos frères, ils vous ont posé des questions sur ce que vous aviez vécu ?
Oh, ben moi, tous mes frères sont décédés. Hein. Il n'y a que mon frère avec qui j'ai... Enfin, qui était en zone libre que j'ai rejoint et qui s'est engagé dans la deuxième DB, lui. Donc, lui, il est revenu un an après ma déportation. Il était militaire. Hein.
Il a posé des questions ?
Ah non, justement, quand je l'ai revu, moi, ça faisait déjà presque un an que j'étais revenu. Lui, il a été démobilisé qu'en 46, mon frère. Et quand on s'est revu, il avait quand même fait quelques mois d'occupation en Allemagne. Donc, bien sûr qu'il avait eu l'occasion de visiter les camps. Et la première chose qu'il m'a dit, je sais ce qui s'est passé, je sais comment vous avez été accueilli à votre tour. Personne ne vous écoutait. Alors, il dit, tu essaies de refaire ta vie, moi je refais la mienne, et puis on n'en parle plus.
À vos enfants, comment vous avez parlé ?
Je leur ai jamais parlé. Je leur ai jamais parlé parce que qu'est-ce que vous voulez ? Moi, quand je me suis marié après la guerre, j'avais perdu toute ma famille, donc j'avais absolument aucun contact avec d'autres. Enfin, je ne vivais pas dans le milieu juif, si vous voulez.
Mais votre mari, qu'est-ce qu'il savait ?
Il savait rien. Lui, il habitait dans le 17e arrondissement, vous voyez, du côté du boulevard de Courcelles. Ben là, il avait un an de plus que moi, donc vous voyez, il allait encore à l'école. Hein. Et puis finalement, il n'a pas vu les arrestations. Et puis, vous savez, comme 80% des Français pendant l'occupation, hein, de l'instant où vous étiez ni communiste, ni juif, ni résistant, à part un peu de ravitaillement qui leur manquait selon leurs possibilités, ils ont vécu, puis il y en a quand même très bien vécu. Bon, là, il a fait partie de ces 80% d'indifférents, quoi, ça ne le concernait pas.
À quel moment il a su ?
Quand j'ai commencé à le fréquenter, puis qu'on a décidé de se marier, il a bien fallu que je lui dise. Vous savez, quand mes enfants ont eu l'âge d'aller à l'école, si vous voulez, quand ils revenaient de l'école, il y avait deux lignes sur la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, quand vous avez des enfants en primaire, j'allais pas les asseoir en disant... Puis comme on n'évoluait pas dans le milieu juif, ils n'en avaient jamais entendu parler.
Qu'est-ce que vous saviez, vous, de cette histoire ?
Rien. Qui était déporté ? Rien.
Si, un peu, mais...
C'est l'enfer, en fait. La Shoah, ça veut dire l'enfer. Et du coup, c'est ce que je savais, et que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que c'était un génocide.
Et tu le savais comment ?
Grâce à ce que j'ai regardé sur Internet, etc.
Vous en avez parlé avec vos parents ?
Non.
Oui.
Non ?
Chez moi, il n'y a pas de... je parle pas des cours, il n'y a pas de sujet de conversation par rapport à ça.
Mais est-ce que ça déborde pas un peu les cours ? Est-ce que tu as l'impression que tu pourrais en parler avec tes parents ?
Ouais.
Mais ça t'est pas venu ?
Non.
Et avec tes amis ?
Non plus, mais oui, ça pourrait.
Ça reste dans l'école ?
Bah oui. Si, plus quand même.
Noël, qu'est-ce que tu veux dire ?
Moi, en fait, j'en ai pas parlé avec mes parents, vu que j'ai une sœur un peu plus grande. Elle avait déjà fait ce chapitre-là, et du coup, on en avait déjà parlé. Du coup, j'ai pas eu besoin d'en reparler avec mes parents, voilà.
Quand je suis rentré, je pesais 32 kilos, alors pour vous dire que les gens ont commencé à nous dire « qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Puis quand on a commencé à vouloir parler, ils nous ont pas cru. Ils nous ont dit qu'on était devenus folles, qu'on racontait n'importe quoi, que c'était pas possible que... Enfin, ils voulaient pas nous croire. Mais vraiment, ça a été quelque chose d'affreux. Alors, et puis en plus de ça, on lisait l'incrédulité dans leurs yeux, parce qu'il y a eu quand même 76 000 déportés juifs de France, et on est revenu à 2500. Alors on a été pratiquement culpabilisés en disant « qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres ?»
Vous vous souvenez par exemple de quelqu'un à qui vous avez parlé et qui vous a...
Non, non, parce que c'était des gens, on était dans la rue, hein, puisque l'appartement de mes parents était occupé, on était dans la rue, quoi. Je regardais dans le quartier où habitait ma famille, c'est des gens que je connaissais pas du tout, qui venaient vers nous, quoi.
Ça vous a mis en colère?
Alors, j'étais écorché vif en disant, c'est pas possible, avec tout ce qui nous est arrivé, et puis que personne nous croit, bah, j'avais l'impression qu'on était devenu transparent. Que personne ne voyait. Et puis c'est ce qui m'a le plus choqué au départ, ça a été l'indifférence totale.
Est-ce que je voudrais savoir si vous avez gardé votre tatouage, votre numéro, ou vous l'avez enlevé?
Oui, j'ai gardé mon tatouage, je l'ai toujours. Alors évidemment, quand je suis revenu au mois de juin, il faisait beau, il faisait chaud, j'étais bras nus. Alors évidemment, à l'époque, c'était pas la mode. Alors évidemment, de voir une jeune tatouée, ça faisait un drôle d'effet. Alors on nous posait des questions un peu bizarres. Parce que trouver une explication pour un numéro, c'est pas évident. Alors, la première fois, on m'a demandé si c'était mon numéro de téléphone. Et puis après, on m'a demandé si c'était à la Loterie Nationale un numéro de chance que je me serais fait tatouer. J'ai arrêté de répondre. Hein, quand une dame qui m'a demandé si c'était mon groupe sanguin. Alors là, je l'ai regardé. Je lui ai dit, j'espère que vous n'aurez jamais besoin d'une transfusion. Hein, parce que pour trouver l'équivalent de mon groupe, c'est pas évident. Hein.
Votre plusieurs jours et plusieurs nuits, lorsqu'ils ouvrent les wagons, il y a un brouillard épais. C'est que j'ai cru que c'est un brouillard. Et lorsqu'on nous donne l'ordre de sortir des wagons, il fallait enjamber les cadavres. Il y avait des hommes en costume rayé, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un étang. Et quand on est déshydraté, on veut courir vers l'étang pour s'humecter les lèvres. Et un des hommes en costume rayé dit, surtout n'allez pas boire cette eau, c'est infesté de moustiques. Si vous êtes piqué par un moustique, vous allez directement dans la chambre à gaz. Et là, je réalise ce que j'ai cru que c'est un brouillard. C'est la fumée du crématoire et l'odeur de chair brûlée. Et je me suis fait cette réflexion. Bon, ben, c'est le terminus. Pourvu que ça aille vite. Alors, ça n'allait pas très vite. Parce qu'on fait la queue devant ce complexe de chambres à gaz et crématoires. On sélectionne. Et puis, à un moment donné, venait un groupe d'hommes en costume rayé avec des brouettes, avec des tiges longues et des crocs. Et le premier dit, « Les filles, si vous rentrez dedans, vous regardez au plafond, si c'est l'eau qui coule, vous allez encore vivre. » Alors, on rentre dedans, mais c'est pas tout de suite qu'on rentre dans cette salle où l'eau devait couler. On nous enlève nos vêtements, on nous rase le crâne, et toute nue, on nous pousse vers une salle. Et on regarde au plafond, et c'est l'eau qui coule, et un grand ouf, on va encore vivre. Donc, je dois vous dire que je comprenais l'allemand. Ce qui me facilitait aussi, je pouvais dire aux autres aussi qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent. Ça évitait un petit peu le coup. Alors, j'entends qu'il y en a un qui demande à l'autre qu'est-ce qu'on attend. Et l'autre lui répond, on attend le docteur Mengele. Au bout d'un certain temps, de la forêt, sort un officier, tranquille, il avance lentement, ce qui n'était pas habituel aux autres. Les autres arrivaient très vite, très rouges, et en criant, celui-là, non, tout calme. Et au fur et à mesure qu'il s'approche, je remarque qu'il n'est pas comme les autres, il est tout tranquille, il est même bel homme. Et puis je me fais la réflexion, puisqu'ils ont dit « Docteur Mengele », il ne doit pas être comme les autres. Il doit être plus humain, puisqu'il est médecin. Et encore plus près, je remarque qu'il a une petite baguette. Et cette baguette, il tapote sur ses bottes. Je vous ai dit auparavant que mon père était chef d'orchestre. Et moi, je déroule mon cinéma. Je me dis... Il a une baguette comme mon père pour diriger son orchestre. Peut-être mon père est là. Je ne suis pourtant pas croyante. Mais on s'accroche à ce qu'on peut. Je ne savais pas cet homme. La belle allure, pas comme les autres, tranquille. C'est le plus grand monstre que la Terre puisse porter, Docteur Mengele.
Ce savoir que vous avez acquis, on peut dire, est-ce qu'on peut le partager?
Je ne sais pas si on voudrait partager avec les autres. C'est trop terrible. Et puis, la première fois quand on m'a demandé d'aller témoigner, je ne m'imaginais pas que dans une vie normale, on puisse trouver les mots pour exprimer ce que nous avons vécu. Et je suis même persuadée jusqu'à maintenant. Les mots de tous les jours ne peuvent pas exprimer cette monstruosité. On trouve les mots à peu près. Oui, que les êtres humains sont capables de ça. Oui. Il y a des gens qui me demandent si témoigner, si c'est pas une thérapie pour moi. Ça me choque. Une thérapie. Moi, je revis des situations à chaque fois. Quand je parle de cette promesse que mon frère a faite, tant que je vivrai, elle vivra. Moi, je suis chez moi, à la maison, où maman ou mon père va vers l'armoire, il prépare un baluchon pour nous dire au revoir. Vous voulez que je vous raconte la situation? L'atmosphère était très, très lourde. Et ma mère me dit, va voir ta petite amie Anja, et ça va te changer les idées. Donc je vais chez elle, et nous sommes assises par terre. On se parle à voix basse. Et d'un seul coup, on entend tambouriner à la porte. Aufmachen, Gestapo. Ils étaient quatre. Ils rentrent. Et on ne sait pas le temps, mais peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Tout se trouvait par terre, le matelas retourné. L'armoire vidée, la bibliothèque. Et le papa de ma petite amie était dans une pièce, il faisait des exercices sur son violon. Parce que ce monsieur était dans l'orchestre de mon père. Donc il s'adresse à lui, vous devez nous suivre. Amenez votre violon. Et il part. Et la maman, elle nous voit blême. Et elle dit, bah, puisqu'ils lui ont dit d'amener son violon, sans doute pour organiser une soirée, un concert, il va revenir. Ce monsieur n'est jamais revenu. Il est parti avec le premier transport qui est parti à Auschwitz. Le premier transport est parti de ma ville. Seulement moi, il fallait que je rentre à la maison et que je raconte ce que j'ai vécu. Et tout ça, ça se passe sans parole. Et j'ai peur de partir. Et la maman, au bout d'un moment, elle dit, il faut que tu rentres parce que le couvre-feu est déjà, depuis longtemps, tes parents vont s'inquiéter. Et j'arrive à la maison et bien entendu, tout le monde est fâché contre moi. Et j'arrivais pas à parler. J'arrive péniblement à dire, Monsieur Ablaiser a été arrêté par la Gestapo. Ça se passe sans parole, silence. Mon père se dirige vers l'armoire, il prend un petit baluchon. Et il vient nous dire au revoir. Et il s'adresse à mon frère René pour lui dire « Tu t'occuperas de Frania. » Et mon frère lui répond « Tant que je vivrai, elle vivra. » Et mon père est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Mon frère est mort à Mauthausen. J'avais une maison exceptionnelle. Exceptionnelle. Quand on est enfant, on ne se rend pas compte. On s'imagine que c'est normal. Oui.
Vous pouvez nous la décrire ?
Pardon ?
Vous pouvez nous la décrire ?
Ma maison ? Ma maison, l'été, on ouvrait les fenêtres et quand on jouait, eh ben, y avait un attroupement devant la fenêtre. Les gens écoutaient parce que ma mère était pianiste. Elle accompagnait le film muet dans le cinéma. C'était peut-être la première chômeuse lorsque le cinéma est devenu sonore. Et donc après, elle jouait plus. Elle jouait de temps en temps comme ça et elle était très sévère avec moi parce que elle allait d'une pièce à l'autre et je pensais qu'elle m'écoutait. Pour moi, j'étais un peu fantaisiste. Je faisais un peu n'importe quoi. Elle m'obligeait à suivre les notes. Donc elle me disait tout le temps, reprends, ça va pas. Et ça, j'aimais pas. Mais il y avait une famille dans la même rue où il y avait un piano. Et j'allais là-bas et je faisais n'importe quoi, tout ce que je voulais. Personne ne s'occupait de moi. Thank you. qui n'a pas fait la musique chez moi à la maison. Après la guerre, c'était pas possible. Je pouvais pas regarder un clavier. Regarder un clavier, je voyais les mains de ma mère. Tout le monde jouait à la maison. Mon frère aîné est un violoniste. Ma mère disait toujours, il est né avec le violon dans son ventre. Ouais. Mais ça, j'ai pas eu le courage de reprendre déjà. Pas les moyens, on sortait quand même d'une guerre. Les appartements, c'était difficile, petit. Et les enfants arrivaient sur un corps malade. C'était pas la priorité. Mais un jour, une amie a fait repeindre son appartement, elle avait un piano. Et elle m'a demandé de le garder le temps que les travaux se fassent. Et je me suis dit, quand les enfants partiront à l'école, je vais essayer. Et alors j'ai repris mon souffle. Et j'ouvre mon piano. Et je mets mes doigts sur le clavier. J'étais prise d'un tremblement. J'ai essayé à plusieurs fois. Je me suis dit, peut-être la méthode Coué. J'arrivais pas, une voix hystérique. Donc après, si je voulais pas tomber malade, il fallait pas que j'ai un piano.
Et on écoutait?
On écoutait, écouter, oui, voir à la télévision un concert, ça provoque. Oui. Et ça fait pas si longtemps que j'arrive à écouter un concert. C'est comme tous les instruments étaient à moi. Chez nous, à la maison, les murs des instruments accrochés, il y avait une salle où d'ailleurs, quand j'ai grandi, c'est là où je dormais. Ouais. Sur un sofa. Et bon, où sont tous ces instruments? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc quand je vois un orchestre, je cherche. C'est un peu stupide, mais bon. Vous savez, ce qui est difficile pour moi maintenant, lorsque j'ai commencé aussi à faire les témoignages, nous étions nombreux. Et j'ai 93 ans. Donc, je ne sais pas.
Si on oubliait, ce serait comme si c'était rien passé.
Je crois que pour protéger les jeunes, ça serait malhonnête d'oublier. Parce que je leur dis justement, c'est peut-être naïf de ma part, mais j'ai l'impression, si je vous raconte ce qui est arrivé, j'ai l'impression de vous protéger. Parce que c'est vrai, lorsque j'avais 13 ans, c'est tellement arrivé subitement tout ça. Pour moi, la gamine de 13 ans, c'est tellement arrivé du jour au lendemain. Donc je me dis, si je témoigne, je les préviens, et quand on dit une phrase comme ça, un être prévenu en vaut deux. Voilà. On peut s'organiser, on peut réagir. Donc je pense, en quelque sorte, je les protège, je les réveille. J'arrête. Bon, gardez ça. Vous êtes jeune, vous penserez à moi.
Parler encore, collégiens et survivants face à la Shoah. Une émission de Béatrice Léca réalisée par Yaël Mandelbaum. Prise de son Yvan Turc et Claude Nior. Mixage Guillaume Ledu. Production Aurélie Charon. Coordination Inès Dupéron. Merci à Félix Blum pour ses sons. Merci à Séverine Rank et à ses élèves du collège Utinel de Gretz-Armainvilliers. Merci à Flavie Bitan et à Jacques-Olivier David du Mémorial de la Shoah. Et merci à Floriane Bonani et à son violon. Demain soir, dimanche à 20h, l'expérience sera celle de deux militants anti-apartheid, Sylvia Nim et Ahmed Katrada. Nicolas Champeau a trouvé leur correspondance inédite, amoureuse et politique, échangée pendant les années d'emprisonnement d'Ahmed, l'ami de Mandela. En attendant, il est bientôt 22h, vous écoutez France Culture, la création ça continue, place maintenant à la fiction.